Erosmoul, érotisme, coquinerie, sexualité sur Osmose Radio.
Bonjour chers amis, bonjour chers petits fripons, vous êtes branchés sur Osmose Radio en ce début d'après-midi, vendredi 7 mai, mais comme vous êtes bien inspirés, car aujourd'hui, après un an d'abstinence, c'est le retour d'Erosmose sur les ondes d'Osmose Radio, sur le flux direct, sur le flux audio, sur lequel on se retrouve, vous et moi, on était prédestinés, comme chantait Guy Marchand, hein, voilà. Eh bien, soyez les bienvenus avec Stéphane pour vous accueillir, Isabelle voix suave, en tout cas avec les pollens, j'essaie. Hein, et justement c'est le printemps et c'est le retour d'Erosmose. Alors Erosmose, qu'est-ce que c'est sur la grille d'Osmose Radio? Erosmose en fait est une émission qui se préoccupe et qui aborde les thèmes de l'érotisme, de la sexualité tout simplement. Alors tout cela par divers aspects, hein. Tantôt ça peut être de la littérature, de la poésie érotique, tantôt ça peut être des sujets plutôt de société. Par exemple récemment, ben, c'était le 30 avril la semaine dernière, c'était ce qu'on appelle parfois la fête des sorcières, le Valpurgis ou Beltane, hein, ça dépend dans quel coin d'Europe vous vous trouvez. Et par exemple, sur le série des podcasts d'Osmose Radio, vous pouvez tout trouver à la rubrique Erosmose l'excellente émission sur les sorcières qu'on avait fait il y a 2 ans. Hein. Et je dis pas excellente parce que j'étais dedans. Voilà, par exemple. Et puis, évidemment, ça peut être aussi des anecdotes un peu croustillantes ou tout simplement aussi des thèmes du bien-être et de la santé, hein, puisque ça correspond aussi à un des aspects de la sexualité. Et pour reprendre un thème qui vient régulièrement dans la grille d'Osmose Radio, voilà chers amis. Et du coup, alors, une émission qui s'appelle Erosmose et qui aborde la sexualité et l'érotisme, d'aucuns d'entre vous peuvent se légitimement se demander, mais pourquoi faire une telle émission en début d'après-midi? Ce serait plutôt, une telle case horaire, ce serait plutôt pour la fin de soirée, hein, quand les enfants sont couchés. Ben oui, chers amis, mais en même temps, le début de l'après-midi, c'est l'heure de la sieste, et qui dit sieste dit éventuellement sieste crapuleuse, hein, vous en faites ce que vous voulez, et du coup, ben moi, j'ai envie de vous mettre un petit peu dans l'humeur, dans le mood, hein, comme disent les jeunes, pour aborder un petit peu ce début d'après-midi de ce vendredi, veille de week-end, hein, week-end encore confiné, je vous l'accorde, mais week-end tout de même, voilà chers amis. Et du coup, ben, puisqu'il est question de donner de l'amour, hein, dans la vie en général et dans Erosmose en particulier, ben, je vais vous en donner, moi, de l'amour, notamment avec ce titre de Marc Cerón qu'on va écouter tout de suite, Give Me Love. Yeah.
fin. Give me love à l'instant, chers amis. Voilà, c'était un morceau de Marc Cerone, pardon. J'ai l'impression que mon micro est un petit peu fort. On a eu des problèmes techniques, chers amis, et du coup on a changé le micro, mais il a pas été calibré, et du coup ma grosse voix, ma grosse gorge, ma grosse testostérone en ce début de printemps, eh bien du coup peut-être que ça influe un petit peu sur les moyens techniques. Coupe-moi le tapis, s'il te plaît, là ça me pète les couilles. Voilà, merci. On m'entend mieux comme ça. Je suis mieux avec vous, chers amis. Puis d'ailleurs, j'ai pas envie d'être avec vous sur un tapis. J'ai envie d'être avec vous sur une peau de bête devant une cheminée. Mais bon, ça, mes chers amis, on verra une prochaine fois. Pour le moment, eh bien, vous êtes bien dans Erosmos, vous êtes bien sur Erosmos Radio. Et à l'instant, on écoutait Marc Cerone, disais-je, un morceau que j'aimais bien quand j'étais petit. Puisque moi, je suis né dans les années disco, j'étais prédestiné en quelque sorte. Et là, on venait d'écouter un remix, en fait, de ce classique de Marc Cerone, de ce classique de la scène disco française des années 70. Un remix qui datait d'une quinzaine d'années, il me semble, voilà. Par Bob Sinclair. Et du coup, ben ouais, donne-moi de l'amour, le tabalnak, hein. Je l'imagine que c'est la traduction au Québec, mais nous ici, dans le sud de la France, on aime bien ça aussi, l'amour, on aime bien ça aussi sur Erosmos Radio, et du coup, bah, je vais reprendre un peu les émissions d'Erosmos après une longue interruption due à cette période de Covid, vous vous en doutez bien. Alors du coup, je vous avais dit que ouais, il y aurait différents sujets d'aborder, et pour aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de partager avec vous un texte qui m'a beaucoup fait rire, un texte assez intéressant que j'ai découvert sur un blog qui s'appelle Azukachi. Un mot japonais qui signifie timide, en fait. Voilà, donc c'est un grand timide, apparemment, un grand timide un petit peu cynique qui raconte ses déboires réels ou imaginaires dans la capitale française, parmi une faune un petit peu interlope dont il fait plus ou moins partie. Et le texte que je vous ai ramené aujourd'hui s'appelle L'ambiance du dimanche soir. Alors c'est vrai que nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des week-ends un petit peu agités. On est tantôt en couvre-feu, tantôt en confinement, et du coup, on sait pas trop à quoi s'attendre. Et du coup, le grand soir ou les grosses soirées, pour le moment, ce n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Mais on n'a pas toujours vécu comme ça, hein. Et en 2018, on pouvait encore sortir, notamment par les beaux soirs de printemps ou d'été. Et du coup, histoire que ces jolies périodes puissent revenir, malgré les variants, malgré le Covid, malgré les ennuis, tout ça. Eh bien, je vous propose de nous remettre un petit peu dans l'ambiance, en espérant que ces belles soirées de charme, décadence, si j'ose dire ainsi, reviennent pointer le bout de leur nez dans nos agendas. Voilà, chers amis. Et du coup, j'ai envie de vous faire la lecture de ce texte que j'ai trouvé assez sympathique, avec évidemment des aspects un peu discutables, mais ça, ce sera à vous de vous en faire une idée. Et pour le moment, je vais prendre une grande inspiration, je vais me désaltérer un petit peu, et puis on va écouter ça ensemble. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Réveil desséché, visage congestionné et vapeur d'infâmes Jägerbombs. Un dimanche midi post-moderne. Julien m'appelle, un peu exalté. Lui, c'est un artiste électro, comme on peut lire sur Wikipédia. Un octambule aux cheveux longs et au look normcore admirablement travaillé. Il a toujours des plans, des places, des listes ouvrant les portes de tous les clubs, hangars, rooftops, pelouses, catacombes, parkings, lieux éphémères, égouts de la ville. Tous les territoires perdus du prétendu underground parisien. Je dois absolument venir à Skip, sur les quais, voire vers les Invalides. Il y a une soirée qui dure depuis vendredi soir. Il y joue, ce sera dimanche à 14h30. J'aurai une place en backstage et je ne serai pas déçu, m'assure-t-il avec une voix mauvaise. Je maugréai un vague oui et je raccroche. Ça me dit rien qui vaille, mais je vais quand même y aller. Et puis, éprouvé par la tentation, je renonce à ma journée détox, thé vert, gainage, en soupirant, mes désirs d'avenir encore une fois remisés au placard. En arrivant au pont Alexandre III, sous un soleil de plomb, me voici nez à nez avec un vrai dimanche après-midi du 8e arrondissement. Un dimanche gonflé de touristes, d'étudiants en droit ou en école de commerce, de gueules de Jean Sarkozy, de Polo, de familles pour tous et leurs fillettes en serre-tête. Et juste en dessous, il y a le « showcase ». Enfin, ce qu'il en reste, vu que cette affreuse discothèque a fermé il y a quelques mois. En descendant les escaliers vers les quais, je m'aperçois que l'entrée du club, d'habitude proprette et remplie de connards en chemise Ralph Lauren, est devenue un fumoir à ciel ouvert entouré de grilles, et plus je m'approche, plus je réalise que les occupants détonnent avec le reste du décor. De loin, cela ressemble à une horde de néo-barbares échappés de Mad Max. Je sais, à l'adresse fournie par Julien, que je suis bien à la péripate. Perry Patoui, qui semble-t-il occupe à présent les lieux plus ou moins légalement. Rien que le nom, la péripate, j'aurais dû me méfier. J'avance vers le videur. J'avance vers le videur qui est un noir quinquagénaire massif, un mammouth laineux, à dos argenté, un bomber sans... L'autre tapis, s'il te plaît. J'avance vers le videur, disais-je, un noir quinquagénaire massif, un mammouth laineux à dos argenté en bombers. Malgré la chaleur, avec de gros gants en cuir d'assassin, et il m'accueille avec une surprenante bonhomie, ce type qui fait une taille d'armoire à glace. Il me fait... C'est ta première fois à la péripate, bonhomme ? J'acquiesce poliment. Amuse-toi bien, conclut-il avec un grand sourire indulgent. Eh ben... Et je rentre, je passe par la porte. Je passe la grille et je me ferai une route à travers une foule d'êtres en sueur, il y a 2 minutes, vers l'entrée. À ma gauche, 2 trentenaires, sans chaussures, vêtus uniquement de jeans, d'une paire de bretelles chacun, s'embrassent en buvant chacun leur tour dans un verre d'eau, à mon avis, rempli de méthylène dioxyméthylamphétamine. D'ailleurs, vu le regard vaudouisé des zombies technivaliers qui m'entourent, elle a l'air bien corsée, la MDMA, dans le coin. Enfin, il est 15h, on est dimanche, et le petit monde enfermé derrière ses grilles n'a clairement pas fini son samedi soir. Ils baignent dans leur jus, sous les moulures, sous les dorures, sous les colonnades, en contraste total, niché au cœur de ce style très français, à la fois extrêmement rigoureux, très démonstratif du 19e siècle, ce cocktail de Versailles et de moteurs à vapeur, de Grèce antique et d'angelots étincelants façon Vatican, ce condensé d'Occident dans toute sa démesure et terrible splendeur. Ce pont, construit pour l'exposition universelle de 1900, en l'honneur du tsar de Russie, possède un frère jumeau à Saint-Pétersbourg, sur la Neva, dans cette ville francophile au sein d'un pays francophile, la Russie. Si un jour je devais faire visiter Paris à des Russes, ils seraient très surpris, je pense, lorsque devant le pont Alexandre III, les Invalides ou l'Opéra, je leur avouerais que je me sens en total décalage avec cette civilisation, pas plus que, hein, que tous ces édifices pleins de flonflons ont été bâtis par des gens que je ne pourrais plus comprendre, pas plus que je ne comprends les zouaves drogués autour de moi. Tiens, voilà, c'est ça en fait. J'erre perdu quelque part à mi-chemin entre les angelots du pont Alexandre III et les damnés de la péripate. Julien m'avait dit que la dernière soirée avait eu lieu dans un squat à la chapelle, en plein chez les Soudanais. J'imagine leur gueule en voyant des Uber s'arrêter devant un immeuble a priori désaffecté pour que des hordes de gens en sous-vêtements s'en échappent. D'ailleurs, j'atteins enfin la porte et je m'enfonce dans la pénombre, en évitant de justesse une jeune femme en undies traçant vers la lumière tête baissée, un verre dans chaque main. C'est bien le showcase, ou ce qu'il en reste. D'immenses voûtes de pierre de taille, un bar au milieu, et puis une fosse. Et tout autour, une foule de primitifs que je distingue mal, car j'ai encore mes moscottes à clip solaire sur le nez. Fond sonore électronique, boom-boomesque, un brin challengeant quand même pour ma gueule de bois. Cette sale boîte prétentieuse semble avoir retrouvé sa vocation première de hangar à bateaux désaffecté, et c'est pas plus mal. Je retrouve Julien. Il arbore un Bombers Metro-Goldwyn-Mayer avec le lion qui rugit dans le dos. Il me présente à quelques-uns des organisateurs de cette formidable bacchanale. Puis je plonge dans la fosse, je me mélange au corps dans la pénombre et je prends conscience que j'ai atteint un putain de purgatoire. Il règne une chaleur moite et toxique, 40 degrés Celsius au bas mot. J'ai l'impression de pouvoir choper toutes les MST de la ville rien qu'en respirant. Cette atmosphère, c'est comme lorsqu'on visite l'Afrique ou le Vietnam. On sait qu'on, si on se fait la moindre petite entaille au doigt, au pied, on est baisé. C'est un tartare démentiel, une terre sauvage aux confins de la raison. Il y a des petites brunes en mini-short et en van topless qui défient le monde du haut de leurs tétons. Des quinquagénaires nudistes à la sexualité ambiguë, chauves et à la peau fripée par les séances d'UV. Plus loin, un blond à mandibule carré, les cheveux plaqués en arrière, de petites lunettes de soleil rondes, t-shirt blanc immaculé, fraîchement repassé, rentré dans un pantalon beige à taille haute, des gaines de tueur à gage est-allemand, m'envoie un sourire carnassier. Une meuf sculpturale, au crâne rasé, tatouée de partout, vêtue d'un porte-chartel, d'un piercing à chaque mamelon, de cuissardes en cuir et d'un collier de chien clouté, et j'avoue être un peu déçu lorsque je découvre que la petite chaîne qui lui tient lieu de laisse mène tout droit à un colosse de 2 mètres aux pectoraux bombés et qui la suit de près. Plus loin, un type très enfantin, aux airs de lycéen, glabre, tout nu, sauf pour sa cape en cuir, hyper malaisant en fait, promène son petit sexe en laisse, décidément. Tout cela depuis vendredi soir. C'est une ambiance de fin du monde. C'est le bunker d'Hitler en 1945. C'est un clip de Marilyn Manson, grandeur nature. Le circus dans Las Vegas parano. La chute de Rome. La horde d'or de Genghis Khan. Tout ce qu'on veut. C'est un ramassis de cinglés volontaires, de mecs là par hasard, de psychotiques lâchés dans la nature. Tout le monde suinte la drogue dure et la décadence. Vaste majorité de babtous, surtout chez les filles. Beaucoup d'hommes en harnais de cuir.
quelques Renois et rebeux, racailleux, en jogging et cheveux longs façon PNL, pas du tout dans le mood, hein, mais ravis de l'aubaine et de ce spectacle qui s'offre à eux, arborent des sourires satisfaits. Je m'aperçois que je suis tout raide, avec mon air très digne et hautain d'anglais en pleine troisième guerre des Zoulous. Et le cou tendu, menton haut, il me manque juste un monocle en fait. Comme je fais un peu tâche dans ce décorum d'apocalypse, je retire ma chemise Oxford bien repassée et je la fourre dans mon sac. J'ai besoin d'un sas de décompression. Je suis cerné par des gens enfermés dans cette tôle depuis 48 heures. 80% d'entre eux toujours pas redescendus. Et je fonce au bar ingurgiter une pinte d'un trait. J'y fais la rencontre de deux trentenaires déshabillés, un peu ventrus, Paul et Xavier, qui se câlinent, très sympathiques, mais qui le seraient encore plus si je ne sentais pas à intervalles réguliers leur pénis effleurer ma cuisse au gré des mouvements de foule pendant que je cherche mon portefeuille. Ah, quelle vie! Un Jägerbomb et une dernière pinte cul sec pour faire passer et je retourne dans la fosse. Je retrouve Julien et je commence enfin à me synchroniser aux vibrations des lieux. La gueule de bois m'offre l'indifférence nécessaire pour prendre mes marques. Je me détends, m'accoutume à la chaleur vaporeuse. Je me laisse envahir par la sueur. J'apprécie ma montée fort peu subtile d'alcool germanique, mis aux relaxations progressives, et je finis par faire des bulles dans cette grosse mare. Je barbote. C'est mon paradoxe personnel préféré. Porter chaussures bateau et se sentir comme un poisson dans l'eau au milieu de ces cénobites, tout droit surgit d'Hellraiser. Irrémédiablement attiré par les bas-fonds, les cloaques, les zones parallèles et interlopes, hors du temps et de l'espace. Besoin impérieux de se réfugier au chaud, dans le noir, parmi les hiérophantes de la déglingue, comme un chien se fout le nez dans les couilles pour mieux dormir en fait. Et j'éprouve malgré tout une sorte de malaise lancinant face à la faune qui m'entoure, incapable de savoir si je contemple l'égout d'une Rome mourante ou un flot de vie dionysiaque, balisé par les voûtes de calcaire taillé. Tous ces gens défoncés jusqu'au bout de leurs limites, ce masochisme européen post-XXe siècle qu'on retrouve habituellement dilué un peu partout dans les différentes strates de la société, ici chimiquement pur. Cette propension à régresser jusqu'au singe sans jugement, se penchant millénaire vers l'animal, vers la souillure et l'effondrement bien officialisé, qu'on n'ait plus qu'à se repaître du spectacle sous les hurrahs dans une fascination pour la fin des choses. Amer constat de cet affaiblissement généralisé des ressources humaines qui pousse tous les gens que je connais à se vautrer dans une pulsion de mort pressante, workaholics qui rentrent chez eux à 23h pour regarder une série de merde en streaming, drogués du week-end, gueule de bois dès le mercredi matin, dépressifs, mecs qui ont arrêté leurs études pour ne plus jamais sortir de leur chambre, meufs ravagées, déclinguées, paumées, qui gueulent sur leur date, bourrées dans la rue. Ils ressemblent ces zombies qui travaillent au 50e sous-sol des hangars d'Amazon avec une intelligence artificielle dans l'oreillette qui leur dit où aller chercher les paquets. Pareil qu'ils peuvent régler la vitesse des ordres reçus pour avoir une plus grosse prime, tu parles. Une petite voix dans le cerveau en fait pour qu'ils n'aient jamais à penser. Tous essaient de s'oublier, de se mentir, de se falsifier la vie. Comme des chiens qui jouent avec leur queue, tous se suicident à petit feu pour conjurer leur inexpugnable angoisse de mort, pour oublier qu'ils sont sur le chemin de rien du tout. À chaque génération, sa soif de charnier. La mienne a décidé que c'était open bar. Un des collègues dégénérés de Julien débarque et nous hurle qu'il a des champignons, des Hawaïens qu'il a reçus par la poste. Il sort un sachet de petites choses fongoïdes, séchées et bleuâtres et m'entend trois que je commence à mâchonner sans conviction. Lui-même est sous une sorte de mélange de LSD et d'ecstasy. Waouh. Julien me force à baisser mon bras tendu alors que je commence à prendre des photos pour mes stories Instagram. Mais non, c'est comme au Berghain ici. No camera allowed. Les gens ne sont pas ici pour faire les malins ni pour qu'on se foute de leur gueule. L'assurance de l'anonymat garantit la bonne ambiance. Et quoi qu'on en dise, il y a effectivement à la péripate une bonne ambiance, qui ne fait que renforcer mes doutes existentiels d'ailleurs. Toutes sortes de corps, de sexualité, de tranches d'âge, de classes sociales, et personne pour vous juger. Tout le monde vit sa vie, danse dans son coin, la nudité entraîne un sentiment d'aménité et de bienveillance générale. Les hommes sont moins agressifs lorsqu'ils sont à l'habit à l'air et entourés de seins. On sent que contrairement au bar qui dégouline de violences rentrées chaque vendredi soir, ici le moindre début d'embrouille sera comprimé immédiatement par une vingtaine de personnes faisant bloc d'un seul être pour dégager les agressifs. À la Péripate est sûrement le seul endroit de Paris en 2018 où une femme peut se promener les seins à l'air sans éprouver ni gêne, ni honte, ni peur. Les LGBT en général et les autres, enfin les LGBT en particulier et les autres en général sont en général très à cheval sur la notion de consentement. On ne se parle pas mal, on ne s'agresse pas, on ne force pas, on n'oblige pas. Cette fosse est en réalité 100 fois plus civilisée qu'un open space ou un métro. Je sors pour vapoter un peu. De l'autre côté des grilles, c'est la vie normale qui continue. Des couples propres se baladent, des touristes éberlués passent devant nous en se demandant pourquoi ce repère d'aliénés n'est pas indiqué dans leur guide touristique. Des enfants à coupe de bol et chaussures de bateau dont les yeux écarquillés tandis que les parents accélèrent le pas. Et je réalise, torse nu, en sueur, rouge d'alcool et de danse, que je suis définitivement passé de l'autre côté. Mon dimanche normal naufragé dans la Black Lodge. En papillonnant, je discute avec un couple de lesbiennes, un couple de gays, un mec en combinaison de latex intégral ne laissant voir que ses yeux, avec une fermeture éclair pour la bouche. Mais bon, vous en faites pas, le mec sera de nouveau architecte dès lundi matin. Julien est dehors aussi, en train de parler avec le videur. Je les rejoins et on discute un peu. Et on reste à picoler aussi un peu parce qu'il faut bien maintenir le rythme. Hervé, le videur, donc, nous dit que jusqu'aux années 90, le topless ou la nudité était accepté dans les clubs parisiens. Mais que l'arrivée du hip-hop a tout changé, en rendant cool le fait d'être misogyne, homophobe, religieux, violent et patriarcal. Il suffit de regarder n'importe quel documentaire sur le palace ou les bains à douche pour le voir, ou alors la différence entre un clip d'Indochine et un clip de NTM. Que maintenant, pour retrouver cette ambiance typique des années 70-80, faut aller à Berlin. Là où il y a le Bergen, notamment le Berlin, ou ce que font tous les Babtous d'ici, d'ailleurs, m'assure Hervé. C'est vrai que lors de mes quelques passages en ex-RDA, je m'étais fait la remarque que l'atmosphère était plutôt détendue dans les bars et clubs du Neukölln. Je réponds à Hervé que je suis bien d'accord. Que la pudibonderie des années 2010 est une abjecte dystopie et que ça parle de blasphème, de harcèlement, de viol, d'interdits alimentaires tout le temps, partout, alors qu'on devrait tous être en string en train de terraformer Mars. Comment on en est arrivé là? J'ai pas été élevé comme ça, moi. Quand je pense que j'ai passé tous les étés de mon enfance sur des plages normandes entourées de milfs qui bronzaient seins nus, des amis de ma mère, quinquagénaires, 68 ardes, qui massaient ostentiblement leurs mamelons à grands coups de crème solaire, au Monoï. Si à la longue, ces mois balnéaires saturés de cougars finissent par tout à fait pervertir ma libido, ils m'ont aussi appris une chose fondamentale. Le corps n'est ni sale, ni honteux, quelle que soit sa forme ou son âge. Je suis un occidental du Nord dans toute sa subtilité. Le mec, il se prend pas au sérieux. Je suis un occidental du Nord dans toute sa subtilité et moi. Doux comme un mouton, introverti, polissé et raffiné, un brin taciturne, jamais un mot plus haut que l'autre. Toujours, oui monsieur, pardonnez-moi madame, mais bien sûr, je vous en prie. Le genre de mec qui s'excuse lorsqu'on lui marche sur le pied, par réflexe. Et je pense que ce degré de développement d'une civilisation se mesure au pourcentage de corps que ses citoyens peuvent dénuder tout en maintenant une conversation polie. La maîtrise de ses pulsions, le contrôle de soi-même et de ses émotions, voilà la différence fondamentale entre la paix constructive et la guerre permanente, entre le civilisé et le barbare. En Scandinavie et en Allemagne, à Berlin par exemple, comme je disais tout à l'heure, où la Freie Körperkultur et le Gesund, c'est-à-dire donc la culture du naturisme et du bien-être, tout cela est implanté depuis plusieurs siècles en fait. Et être nu n'a jamais choqué personne en Allemagne, n'a jamais humilié personne, n'a jamais violé personne et n'a jamais empêché personne de disserter sereinement sur Kierkegaard. En Finlande, la première fois que vous déjeunez chez votre belle famille, après le dessert et le digestif, c'est tout le monde au sauna, tout nu, et comment allez-vous, beau papa? Être gêné, choqué ou s'esclaffer devant une bite, des fesses, une chatte ou des seins signifie qu'on a 8 ans d'âge mental, qu'on est resté un grand enfant, en somme. Et pire, être gêné, choqué ou s'esclaffer devant des mains, des cheveux ou des chevilles, ou un visage signifie qu'on est un dangereux sociopathe nécessitant internement sans consentement et camisole chimique. Il y a quelque chose qui me chagrine un peu dans ce retour du religieux qui semble émerveiller tout le monde. Nous avions mis 1000 ans d'avancées techniques et spirituelles dans la gueule de tout le monde. Et il suffit de 2 générations, pour replonger dans le Moyen-Âge le plus sordide, le plus inquisiteur, le plus à l'andalous. Instinctivement, dans ma tête, les mots ferveur ou théologie ou pudeur ou respect évoquent des images de peste noire, de dents gâtées, de malnutrition, de gens brûlants vifs, attachés à des poteaux sous les hurrahs de la foule, des choses comme ça. Le concept de pudeur, d'ailleurs, est à ce propos le concept le plus frelaté du monde, qui sous-entend qu'à chaque fois qu'on l'emploie, il ne faut pas en dire trop, pas en montrer trop, qu'il faut se tenir à carreau, bien fermer sa gueule, et qu'il faut raser les murs, cacher son visage et ses seins et ses orteils, sous peine de se manger un coup dans la bouche, et qu'on l'aura bien cherché et que ce sera bien mérité. C'est un concept pour gardiens de camp, et ceux qui y souscrivent sont des esclaves ou des matons. Une société devient moyenâgeuse dès lors qu'une personne peut se sentir mal à l'aise de montrer son corps, quelle qu'en soit la raison et quelle qu'en soit la partie. Tout le reste n'est que du bavardage de curé rentré disserter sur le sexe des anges. Ma grand-mère pouvait se baigner nue dans la mare de son village en Normandie. Ma mère pouvait bronzer topless à la plage dans les années 70. Et en 2018, mes copines portent toutes des maillots une pièce et font des détours en rentrant chez elles le soir pour pas se faire traiter de sale pute. C'est QFD. Bref. Je déblatère tout ça tout rouge à Julien et Hervé qui me regardent en écarquillant les yeux, comme si c'était eux qui avaient avalé tous ces champignons qui, manifestement, en ce moment même, sont en train de pétarader dans mon estomac. Julien a soudain une idée et me traîne à l'intérieur, au fond du club, où une porte habituellement marquée « privée » arbore maintenant une feuille de papier où l'on peut lire « backroom » suivi de « baiser » pour ceux qui n'auraient pas compris. Ah ! Manifestement, je l'ai inspiré avec mes envolées sur la pudeur. Je prends une grande inspiration, tandis qu'on ouvre la porte d'acier qui se referme derrière nous avec un vlam lourd et définitif. Nous sommes accueillis par Flatbeat de Mister Oiseau, craché très fort par des enceintes posées sur des fûts de bière et une vingtaine de mecs en train de danser sur devant le DJ en fait, à la lumière rouge sombre. Et tout autour du dance floor improvisé, des lits et des canapés. Sol très poisseux, mais odeur surprenamment neutre. Moi qui m'étais préparé psychologiquement à une fragrance façon intérieure de prépuce. Je suis presque déçu. En mode Al Pacino dans le film Cruising de Friedkin, on se mêle à la faune. Un petit mec sautille et tremblote à côté de nous, visiblement sous dose massive d'ecstasy depuis plusieurs heures. On croirait qu'il a planté une fourchette dans une prise. Il convulse, en rupture d'anévrisme permanente. Il s'agrippe à la manche de Julien, nous regarde sans nous voir, l'air de lutter intensément contre lui-même. Il porte un maillot du PSG et un pantalon cargo au rabais, dégueulasse, sûrement Inésis ou Domios, enfin bref, qu'il a descendu jusqu'au genou. Il gesticule la bite à l'air, à la fraîche, sans s'en rendre compte, il avance comme un portable en vibreur qui se déplace tout seul sur une table. Juste derrière moi, sur un canapé contre un mur, un mec est assis, l'air stoïque, pendant qu'un autre le suce comme si c'était la dernière pipe de sa vie. Le type ne bronche pas, c'est le sucer le plus méditatif de ce jamais aperçu de ce côté-ci du Gange. Un peu plus loin, deux garçons ont une minute auparavant s'embrasser, se branlent mutuellement. Un mec perché dit à Julien qu'il est très beau garçon et le galoche. Mais Julien m'attrape par l'épaule et lui dit avec un ton plein de fierté « Non mais tu sais, on va se marier dans un mois » en me caressant les cheveux. Ouais, je réagis même pas, tout à caparé que je suis par la vision de deux garçons d'à côté qui sont maintenant à poil en train de s'enculer sauvagement debout, sans trompette ni flonflon, et ils y vont pas de main morte. Dimanche, 16h. Bon, c'est toujours moins chiant qu'un repas de famille, hein. Un mec qui a fini de baiser cherche ses chaussettes, tout piteux, en s'aidant de la lampe torche de son téléphone avec sa demi-molle qui oscille entre ses jambes. Là encore, pas de pression, hein. Personne ne nous emmerde. Un pote de Julien qui propose d'aller en backstage rouler des joints nous exfiltrons. On passe derrière la scène, où danse, gigote, comate, discute quelques élus, juste derrière le DJ. Puis on se traîne dans le dédale de couloirs des parties privées du showcase, pour arriver dans une salle exiguë et insonorisée, avec pouf et table basse et canapé, aussi défoncés que leurs occupants d'ailleurs. La table est remplie de gobelets, cendriers, vodka, jus, bière, pochons débordant de produits verts, blancs, roses. Au fond, comme un roi sur son trône, tout drapé de fluo, un homme assis, massif, au faciès très particulier, préside à la cour de hipsters. C'est Tequila Tex, son petit nom. Autour de nous, garçons et filles, tous plus ou moins dénudés, avec des trognes du 11e arrondissement, parlent très fort. « Wesh, t'es qui ?» balance Julien, apparemment familier du personnage. On s'assoit à côté de lui et on échange quelques mots. Je suis surpris par sa bonhomie et son accessibilité, malgré son air de roi en exil. Il reprend ensuite la discussion qu'il avait avec un long mec chevelu et je les écoute débattre avec emphase du Trône de Fer, le livre, hein, pas la série, et de sa filiation avec les rois maudits de Maurice Druon. Des gens partent, arrivent, les bruits assourdis de la fête nous parviennent et créent une ambiance d'isolement à la fois intimiste et pesante. Façon film de Gaspard Noé, en quelque sorte. On entend d'ailleurs la mélodie menaçante de Fric par LFO, ce qui rend assez tumultueuse ma montée champignonnière, qui continue à s'agiter dans mon estomac. Les murs ondulent au rythme des beats et je n'ai plus aucune notion du temps. Une fille assise à côté de moi se retourne pour me faire face et commence à me parler. Waouh, je lui réponds, un peu surpris, car d'habitude mon air à la fois ouvert et gentil n'est pas du tout kiffé dans les milieux parisiens, où il faut plutôt être fermé et méprisant avec les inconnus. Un jour, j'en parlerai de ma haine pour tous ces sales types vides et prétentieux, hautains comme des ducs, s'étalant dans la beaufrie la plus crasse tout en la drapant d'élitisme. Un Parisien, c'est rien de plus qu'un mélange entre une fin de race versaillaise et un cassos de province. Mais elle est tout à fait à l'opposé, très ouverte, et dans ses manières, dans ses gestes, c'est plein de douceur. Brune, avec cette raie au milieu très lissée qu'on voit partout en ce moment, un slim taille haute noir weekday qui lui remonte jusqu'au nombril, des Vans old school au pied noir et rien du tout en haut, à part un collier noir, black copium d'Yves Saint Laurent, et un bronzage mat et ambré. Elle termine un master 2 en psychologie et je lui explique que je peux faire un excellent sujet d'étude sur les connexions neuronales aléatoires et atypiques générées par la prise de psychédéliques. Ce qui la fait rire. Et je m'étonne de mon aisance verbale. D'habitude, je suis un peu décontenancé par les jolies filles qui m'abordent les seins à l'air, pour ne rien vous cacher. Elle est originaire de Nîmes, mais elle n'a pas l'accent, hein. Et alors on parle de Camargue, on le parle du Sud, on parle des flamants roses des arènes, on rigole sur Georges Fraîche, on débat des charmes des villes provençales, Sète, Avignon, des différences entre le Nord germanique et le Sud latin, des toits en ardoise et des toits en tuiles, des particularités de la France carrefour entre l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Elle est amoureuse de sa région, et moi qui la connais mal, je l'écoute captivée. Je lui sors mon grand numéro en prenant des airs inspirés d'Edouard Baird ou de Gaspard Proust. Camille, parce que j'ai pensé à lui demander son nom quand même à un moment, Camille transpire l'empathie et la bonté, et ça, c'est rare. Pareil cultive la dureté, mélange de cours décadentes et de cours des miracles, de Barry Lyndon et d'Orange Mécanique. Cela fait tellement longtemps que je n'ai pas eu une discussion un peu profonde et intime avec une fille. Elle me change de toutes ces autres pour lesquelles les garçons ne sont que des clowns, des distractions frivoles et volatiles, avec ce mélange de passivité et d'outrecuidance de celles qui ne font rien, à part décerner bon point ou dédain selon leur humeur. « Allez, fais-moi rire et je t'accorde un peu de mon temps précieux, et n'oublie pas qu'à la première lassitude, il y a 50 crevards sur Tinder qui sont prêts à n'importe quoi pour ne serait-ce que susciter mes orteils. » Dans cette société de masques grimaçants où les gens n'ont plus besoin les uns des autres, les filles ne recherchent que des clowns et les garçons que des salopes. L'idéal masculin est Kev Adams, l'idéal féminin est Nikita Bellucci. Combien d'amis ai-je vu débarquer, innocentes de leur province pour devenir 10 ans plus tard de vraies patronnes de bar, rombières qui parlent fort, vulgaires, à qui on tient le cheveu quand elles dégueulent dans le caniveau à la londonienne. L'âge, l'ego décuplé par les likes, les swipes et les matchs, l'esprit pressurisé par les « Hey mademoiselle » et les « Hey grosse pute » qu'elles entendent dans la rue, et le cœur définitivement desséché. Courtisane poudrée, emperruquée, au visage blême et abîmée par le maquillage au plomb et les maladies vénériennes, à l'intelligence sociale surdéveloppée. Cette ville, Paris, est un compacteur, un broyeur d'âme qui transforme les jeunes filles en mères maquerelles, stériles et blasées. Comprenez donc l'étonnement qui me saisit au fur et à mesure que nous parlons et que j'assiste au déploiement très floral de sa personnalité, tout en subtiles corolles. Je m'aperçois qu'on a complètement oublié le reste de la pièce, qui d'ailleurs s'est vidée, tellement occupée à échanger sur les mérites comparés de la psychanalyse et des thérapies cognitivo-comportementales. C'était juste après une digression sur les Royaumes du Nord de Philippe Pullman, je crois. Enfin bref, on s'en fout, il reste plein de vodka et nous convenons d'un simple échange de regards que nous n'avons aucune envie de rejoindre les autres dans la fosse. Mais qu'est-ce qu'elle fout là, cette fille d'ailleurs ? Au fond de cet abysse de chiole surréaliste là et sans issue, j'ai envie de l'enlever à ce purgatoire pour Babtou perdu. Mon sale sang de chrétien se réveille, mon psy m'a dit un jour que je pouvais pas sauver tout le monde. Devoir descendre jusqu'au dernier cercle de l'enfer pour trouver une femme comme Orphée, est-ce vraiment sérieux ? Nos discussions d'ivrogne sont soudain grossièrement interrompues par nos bouches qui décident de faire leur vie en se jetant l'une sur l'autre. Je lui propose de nous enfuir, hochement de tête vigoureux de sa part, et elle enfile son soutien-gorge, j'arrive pas à voir la marque, elle le regrafe, puis elle passe un chemisier col Claudine Sandro qu'elle boutonne ensuite avec application. Faut vraiment que j'arrête de tomber à moitié, voire complètement amoureux de chaque fille qui est gentille avec moi. Je la prends par la main, on traverse la Seine, la fosse, le fumoir, et ce n'est qu'une fois qu'on est bien dehors, sorti des enfers, sur le quai, que je me retourne pour la regarder. Oui, comme Orphée. Hé les gars, je connais ma mythologie. Dans le taxi qui nous ramène, nous sommes silencieux. Et je pense à tout ce temps pas passé avec elle, tout ce temps à ne pas me balader, à ne pas regarder de films, à ne pas faire d'idiotie sous les draps. On rencontre toujours les gens trop tard dans la vie. Devant le porche d'entrée de chez elle, on s'embrasse, elle pose ses yeux verts sur moi, je vois mon existence reconfirmée. On le refait, puis je m'en vais. Je prie fenêtre ouverte pour ne pas souiller l'intérieur cuir du Uber qui me raccompagne, et puis j'arrive chez moi et je m'effondre dans mon lit, tout habillé, en évitant de me dire que on est déjà lundi. Pardonnez-moi, je me désaltère, car c'est fini. Voilà, chers amis, c'est un texte, alors j'aurais dû vous prévenir hein, avant de commencer, pardonnez-moi, que ce texte était vraiment pas pour les oreilles sensibles. Bon, ben, j'espère que ceux qui ont découvert ça en route n'auront pas été trop effarouchés au long de la lecture. Alors, ce blog, Azukachi, donc, qui est aussi le pseudo de l'auteur, dont je vous donnerai évidemment les liens sur Internet si vous voulez lire d'autres de ces textes. Et bien évidemment, moi, ça m'a tout de suite fait penser, vu le style, un petit peu à Houellebecq, en tout cas de loin en tout cas, et un petit peu plus à Beck BD, même si, à mon avis personnel, les phrases sont parfois bien mieux troussées que celles de Beck BD. Mais ça ce côté est aussi un petit peu très parisien, apocalyptique, en quelque sorte, voilà. Et puisque ça parlait un petit peu des boîtes, des soirées dansantes, ou des soirées un petit peu bourrées qu'on a tous connues, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite, chers amis, et bien je vous propose de faire une pause musicale, tout de suite. Une pause musicale avec un truc qui nous est aussi arrivé, c'est d'avoir le visage tout rouge, hein, en frôlant l'apoplexie sur la piste de danse, ou bien en frôlant l'épectase sous la couette, hein, vous voyez ce que je veux dire. Le visage tout rouge, et ben c'est justement l'objet du morceau avec lequel on va continuer, un morceau de Laurent Garnier, The Man with the Red Face. Voilà, The Man with the Red Face, un morceau d'un vieux morceau de Laurent Garnier que j'aime beaucoup, hein, qui mélange un peu le côté mécanique rigoureux des machines et puis la sensualité du son de saxophone. Voilà, chers amis. À l'instant, on écoutait donc ce morceau. Juste avant, c'était une lecture d'un texte que j'avais découvert sur un blog qui s'appelle Azukachi. Alors, pour répondre à quelques questions, à quelques interrogations qu'on avait avec les Techos d'Osmos Radio là en off pendant le morceau, en fait, la Péripate, hein, j'ai vérifié, c'est un lieu qui a réellement existé en 2018. Mais après, tout ce que raconte l'auteur dans le texte, bon, il y a sans doute une bonne part de fantasme, ça fait un petit peu la scène d'orgie de Eyes Wide Shut, en quelque sorte, le film de Kubrick, puisque a priori ce garçon aimait les références non seulement à la mode mais aussi au cinéma. Tout ça évoque un petit peu ces scènes de décadence et d'orgie un peu fin empire romain, en quelque sorte, voilà. Là encore une référence qui a eu lieu dans le texte. Et donc, ouais, pour tout ça pour dire que la Péripate, c'est un endroit qui a réellement existé en 2018, qui n'existe plus aujourd'hui, mais vous me direz en même temps, toutes les boîtes, tous les clubs sont fermés, à Paris ou ailleurs. Voilà, chers amis. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sur Osmose Radio, vous êtes bien avec Stéphane dans Erosmose, une émission qui reprend tout doucement après une longue période d'hibernation, puis à cause du Covid, etc. Et donc, bien là, on reprend un petit peu les sujets un peu grivois à l'antenne, en ce début d'après-midi, ce vendredi 7 mai, si vous nous écoutez en direct. Et si vous nous écoutez en rediffusion, excellente idée, téléchargez les podcasts sur le site osmose-radio.fr et pas seulement ceux d'Erosmose. Voilà, et bien on arrive vers la fin de l'émission, cette deuxième partie d'émission. On fait comme à notre habitude, comme mon habitude, on fait une petite brève de presse et de réseaux sociaux. Tout ce que j'ai lu dans l'actualité et qui concerne de peu ou prou les sujets qu'on aborde, hein, l'érotisme et la sexualité, dans Erosmose. Et du coup, ben on va parler un petit peu de tout ça, de tout ce que j'ai pu avoir l'occasion de lire un petit peu à droite à gauche. Alors on va commencer avec quelques statuts Twitter qui m'ont fait rire et que je vais partager avec vous tout de suite. Notamment par exemple une fille qui s'appelle Léane, une anecdote assez croquignolesque, une fille qui s'appelle Léane qui nous dit sur Twitter qui nous raconte un petit peu sa colocation. Et elle raconte ah là là, vivre à 6 dans un appart, c'est aller se faire un café à 8h du matin, croiser un inconnu dans mon salon et lui demander avec quel colocataire il a couché cette nuit. Et puis tout ça pour réaliser que finalement, bah, c'était le technicien qui était venu réparer la chaudière. Oups, bon ben merci Léane, ça m'a bien fait rire. Il y a aussi sur les réseaux sociaux, on trouve des artistes qui publient leurs publications et leurs œuvres. Et il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Petite Luxure, qui mélange à la fois les calembours, souvent assez moisis d'ailleurs, et un coup de crayon à la Jean Cocteau qui est vraiment très très mignon. Si ça vous intéresse, je vous en mettrai un peu plus que je ne vous en ai déjà mis sur le Facebook notamment d'Erosmose, facebook.com/erosmose avec un Z comme Zizi. Et donc ce garçon, enfin la personne, en tout cas l'artiste au cœur du projet Petite Luxure, s'amuse chaque fois à marier un dessin avec un calembour. Et là, par exemple, il a choisi l'expression française « un rien l'habille ». Sauf qu'il a changé une lettre, il a mis un lien à la bille et il a dessiné une dame avec les mains dans le dos liées par un petit ruban rose. Voilà, donc c'est gentiment SM, un lien, la bille. Évidemment, la dame est complètement nue, vous l'aurez deviné. Voilà, je vous publierai le dessin, bien entendu. Là, on a quelqu'un qui aime aussi l'histoire sur Twitter, un garçon qui s'appelle John Overholt, qui a cherché dans un vieux dictionnaire britannique, puisque le monsieur est anglais, dans un vieux dictionnaire britannique, donc du 17e siècle, tout ça, il a trouvé le mot clitoris. Et donc la définition du clitoris dans le dictionnaire, alors je sais plus le nom du dictionnaire, enfin c'est l'équivalent du dictionnaire de l'Académie française qui avait été rédigé à l'époque de Richelieu, hein, pour la France par exemple. Et donc il a dit, vous avez vu les filles, nous les hommes on arrive parfois à trouver clitoris, bon dans le dictionnaire mais on y arrive. Voilà, donc pour les mauvaises langues, hein, arrêtez de nous embêter. Tiens, puis l'autre jour, c'était le 1er mai aussi, et il y a l'universitaire, le chercheur Sébastien Rocher qui s'est fait virer des écoles de police parce qu'il avait une approche un petit peu trop libérale du maintien de l'ordre. Donc Sébastien Rocher qui raconte une anecdote pas piquée des hannetons du 1er mai 2020 où déjà à l'époque il y avait eu des violences alors qu'on était en plein confinement. Des violences évidemment liées au maintien de l'ordre, vous l'aurez deviné. Et donc il y avait des femmes qui avaient un slogan et des pancartes qui s'étaient marquées « Oui au muguet, non au LBD ». Voilà, donc le muguet, hein, vous connaissez cette jolie petite fleur de printemps et du 1er mai, en tout cas qui est associée en 1er mai en France, et qui est un symbole d'amour en quelque sorte. Hein, donc oui à l'amour et non à la répression féroce, et des sans discernement parfois des flics. Eh bien figurez-vous qu'un procureur qu'un procureur de la République, hein, au tribunal, parce que la dame a été traduite au tribunal pour offense aux forces de l'ordre, un procureur a demandé à la manifestante qu'elle écrive une lettre d'excuse au commissaire en charge. Voilà, ça n'a aucun fondement légal. Hein. Mais manifestement, il y a quelqu'un qui, il y a un couillon qui a pensé à faire ça. Donc bah là, on repense évidemment à ce que disait Foucault. Hein, parfois, la police, en théorie, est au service de la justice, mais parfois, bah, c'est la justice qui est au service de la police. Enfin, c'est une considération de sociologie dont vous ferez ce que vous voudrez, mais parfois, elle se rappelle à nous par ce genre de triste anecdote. Mais bon, après, les policiers, j'ai pas trop envie de leur jeter la pierre, en tout cas pas tout le temps. Déjà parce que c'est interdit, et puisque parce que nous, sur Avignon, on a une anecdote assez triste récemment, et d'ailleurs qui nous préoccupe d'autant plus à Osmose Radio, que c'était vraiment au coin de la rue où se trouve notre studio. Y a un policier de la BAC qui s'est fait buter, tout simplement, parce qu'il y avait des dealers qui étaient en vadrouille dans le coin, ils tenaient leur point, et les mecs de la BAC s'étaient approchés, et il y en a un qui l'a shooté presque à bout portant, et du coup, bon ben voilà, c'est un fait divers que vous aurez sans doute lu dans la presse, vous m'avez pas entendu, pour entendre ça, et évidemment, ben il y a des tas de gens sur les réseaux sociaux, enfin je ne les citerai pas parce que ça ne mérite pas de publicité particulière, si ce n'est que ce sont de sacrés pauvres types, mais évidemment, il y a eu des tas de blagues de mauvais goût, hein, quand un flic qui meurt, il y a toujours des social justice warriors et des rebelles de salon pour se déchaîner. Mais aussi les syndicats d'extrême droite qui eux essaient de récupérer le truc aussi et qui sont à mon avis tout aussi vulgaires. Alors ce mec, il était de la BAC, donc quand il a signé son contrat, il connaissait les risques, hein. Le plaindre, ce serait un total manque de respect. Mais en même temps, condoléances à sa famille, évidemment, parce qu'il était aussi père d'un petit bout de chou, je crois. Et du coup, ben il y a toujours des gens pour s'en moquer parce qu'un flic est mort, presque ça les réjouit, quoi. Et il y a quelqu'un qui a dit, on en pensera ce qu'on voudra, il y a quelqu'un qui a dit, bon bah décidément, si les dealers passaient leur temps à tirer un coup au lieu de tirer sur les gens, on serait peut-être un petit peu plus au calme. Et il faut reconnaître que, ouais, c'est vrai, hein, si les voyous passaient plus de temps sous la couette que sur le trottoir à nous casser les couilles, ce serait peut-être un petit peu plus sympa. Voilà, mais bon, dans les faits divers, il y a aussi quelque chose d'assez sordide, là encore. Eh bien, c'est une femme qui a été brûlée vive. Et elle a été brûlée... Alors, tout à l'heure, l'autre jour, je vous parlais des sorcières. Les sorcières qui ont brûlé vives au XVIIe siècle et au XVIe siècle. Eh bien là, en l'occurrence, eh bien c'était un espèce de type un peu... Il a même pas l'excuse d'être cinglé, en fait, parce que son geste était totalement prémédité. Il a brûlé son ex-femme parce qu'il pensait qu'elle l'a trompé. Eh gars, c'était ton ex-femme, donc forcément, elle était plus avec toi, elle te trompait pas, par définition. Mais bon, le type, a priori, il lui a mis 2 balles de fusil dans les jambes, et ensuite, il l'a brûlé vive. Et donc ben voilà, on est au 21e siècle et il y a parfois des mises à mort qui sont dignes de la fin du Moyen Âge. Et donc ben tout ça me rappelle ce slogan qu'on peut lire parfois à droite à gauche. On brûlait les sorcières jadis, mais finalement on s'aperçoit que les gens qui brûlaient les sorcières sont au moins aussi dangereux, sinon plus. Voilà, c'est assez préoccupant. Pourvu que ça s'arrête un jour. Et tiens, ben j'ai envie de conclure avec quelques anecdotes un petit peu plus légères. Notamment ben, d'autres anecdotes que j'ai lues sur Twitter, un gars qui s'appelle, dont le pseudo s'appelle Kazelia, et qui nous confesse un truc auquel on n'avait pas forcément pensé. Quand cette triste période du Covid sera derrière nous, je garderai le masque finalement. Parce que pour nous les moches, ben il est rassurant, c'est comme un bouclier. Ouais mon gars, j'y ai pas pensé, mais t'as peut-être raison. Et il y en a un autre, ben il y a Sabrina, hein, qui nous parle peut-être par expérience, qui elle aussi aime les calembours apparemment, puisqu'elle nous dit « Ah, je crois que le vibromasseur, ça implique l'existence du vibro mon frère. » Ouais, bien vu, pourquoi pas. Et ben là par contre, alors elle l'a fait exprès de dire ça, mais il y en a un qui l'a pas fait exprès apparemment et qui se rend pas compte de la portée comique de sa déclaration, c'est Jean-Pierre Raffarin. Parce que vous savez que les politiciens sont sur les starting blocks là pour les élections présidentielles de l'année prochaine. Et il y a Jean-Pierre Raffarin notamment ben au sein du parti LR, enfin les Républicains qui n'ont de Républicains que le nom, qui s'est exprimé sur BFM TV et qui a dit quand la droite se durcit, elle se rétrécit. Vous avez bien entendu, hein. Jean-Pierre Raffarin a dit ça sur BFM TV. Quand la droite se durcit, elle se rétrécit. Alors, yes to the win, the no and no the win. Enfin, l'intelligence de la main. Vous vous souvenez de toutes les conneries qu'il disait dans les années 2000. Et déjà à l'époque, il faisait pas exprès de nous faire rire. Mais alors là, il a fait très fort 15 ans après. Quand la droite se durcit, elle se rétrécit. Évidemment, ça vous fera penser à un autre truc qui y a entre les jambes de votre bonhomme, hein, et qui parfois se rétrécit, parfois se durcit. Enfin, sauf quand vous y mettez du cœur, mesdames, bien entendu. Voilà. Je passe sur les bêtises, là, pour parler d'un autre politicien un peu teubé, si j'ose dire. Je passe sur les bêtises d'Alice Coffin, qui a marché avec la marche lesbienne il y a une dizaine de jours. Dans les rues de Paris et déjà moi j'étais un peu surpris parce que je pensais que les gay pride ça concernait aussi les lesbiennes et apparemment une marche lesbienne déclarée comme telle il n'y en avait pas eu en France depuis 1979, donc c'est bien que ça ait été fait, c'est pas la question, hein, c'est plutôt réjouissant, d'autant plus qu'il y avait de très très belles photos, on a vu de très belles photos des dames en couple qui étaient avec leur bout de chou, qui avaient l'air de beaucoup s'amuser, etc. Des slogans parfois très rigolos, faut le reconnaître, et puis d'autres qui l'étaient beaucoup moins, bah, comme ceux porté par les pancartes d'Alice Coffin, qui n'en est plus à une polémique près, qui disait notamment des trucs à la limite de la misandrie, comme annonçait son habitude, hein, du machisme pour femmes en quelque sorte. Et elle disait, hein, le féminisme c'est la théorie et le lesbianisme c'est la pratique. Et d'ailleurs, elle s'est fait allumer en commentaire. D'ailleurs, elle a supprimé son Twitter pendant quelques temps parce qu'elle boude apparemment. Parce qu'il y a quelques lesbiennes elles-mêmes qui lui ont dit « Mais attends, cocotte, homosexuel, c'est pas un choix. L'homosexualité, c'est quelque chose qu'on a à la naissance et tu serais bien brave de pas juger les gens, quoi. » Apparemment, elle a pas su quoi leur répondre quand elle s'est fait jeter puisqu'elle a supprimé son poste et elle a mis son compte en veille. Voilà, il y a des gens qui sont comme ça. Hein, faut pas les contredire, surtout. Bref. Et j'ai envie de conclure avec un truc, mais qui m'a tellement fait rire que j'ai eu mal au ventre. C'est une vidéo sur TikTok, dont j'ai récupéré le son pour vous le diffuser là. Une vidéo sur TikTok d'une fille qui s'appelle Tatiana Bellator, qui est plutôt une blogueuse mode et maquillage, mais là qui a eu une idée très très drôle, c'est-à-dire qu'elle a repris tous les préjugés des Américains sur les Français, que ce soit l'habillement, l'accent, la clope, etc. Et là, elle s'est grimée en français, c'est-à-dire que les imagine les Anglo-Saxons, avec une marinière et du rouge à lèvres outrancier et tout, et elle joue sur les différences de vocabulaire entre l'anglais et le français, et l'anglais où il y a parfois, c'est vrai, moins de subtilité pour dire des gros mots que le français où on a parfois un langage assez fleuri. Du coup, elle prend un accent à couper au couteau. La vidéo est en anglais, hein, mais même si vous n'êtes pas très à l'aise avec la langue de Shakespeare, vous allez rigoler, je pense, parce que l'accent est absolument démentiel, est assez drôle, et elle s'amuse de toutes les nuances de pour dire salope qu'on a en français, hein. Alors qu'en anglais, eux, ils ont que bitch pour dire salope. Nous, en français, on a plein de nuances de vocabulaire que je vous propose d'écouter tout de suite.
English is so boring. How do you only have one word for bitch? In French, there's many different ways to call a bitch. Most common one is pétasse, which is for the basic trashy bitch. Then there's canasse, which is for the mean bitch. Then gun for the dumb bitch. Moru is for the dirty bitch. Puffias for the cheap bitch. And then grognas for the fat, ugly bitches. And to make it even better, add gross in front of the bitch word. Gross pétasse, gross connasse.
Yeah, that's not what I meant when I asked you to teach a French for beginners lesson.
Et sa copine qui l'interrompt à la fin de la vidéo. Non, mais en fait, c'est pas l'idée que j'avais en tête quand je t'ai demandé de faire des leçons de français pour débutants sur TikTok. Voilà, donc vous aurez compris le délire. Il y a eu une instruction qui est un petit peu mal passée, mais je trouve le truc très drôle. Et puis quand on voit la vidéo, il y a les mimiques, etc., les roulements de yeux. C'est vraiment fandard, je vous dis. J'ai eu mal au ventre tellement j'ai ri, quoi. Voilà. Et évidemment, je vous mettrai la vidéo sur le. Je vous ai déjà mis, pardon, la vidéo sur le Facebook d'Osmose Radio. Sur le Facebook d'Erosmose, et du coup, je vous le relayerai sur le Facebook d'Osmose Radio, si le cœur vous en dit. Voilà, chers amis. Évidemment, puis il y a d'autres trucs liés à l'actualité, mais ça, vous l'avez déjà entendu, hein, le divorce de Bill Gates, qui là aussi, qui a suscité quelques blagues misogynes assez minables sur les internets. Donc la femme Bill Gates se sépare de sa femme parce qu'elle avait un Mac. C'est rigolo. Et Bill Gates, et ben finalement, ben va s'arranger, va se mettre en couple avec Jeff Bezos, le patron d'Amazon, puisque lui aussi il a viré sa femme. De la même manière qu'il vire ses employés, peut-être qu'il a traité comme elle. Bon bref, allez savoir. Voilà voilà. Enfin bref, le capitalisme et la bêtise humaine ne nous garantissent encore de nombre de blagues débiles sur les internets ou au café du coin. Enfin le café du coin quand il rouvrira, bien entendu, à partir du 19 mai. Croisons les doigts. Voilà, chers amis, on arrive à la fin de cette émission. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Erosmos après un an d'abstinence. Et je remercie d'ailleurs Maxime et Elno, hein, qui dont les chastes oreilles, les gentils techniciens d'Osmos Radio, dont les chastes oreilles ont été durement malmenées pendant cette heure passée ensemble. Hein, je m'en excuse déjà auprès d'eux. Et comme notre habitude, on va finir avec un petit peu de musique. Et puisque je vous parlais d'Amazon à l'instant, hein, peut-être qu'il y aura des dames parmi vous, travaillée par les hormones de printemps, elle aussi, pas seulement par les pollens du mois de mai, qui auront envie de chevaucher leur bonhomme, hein. Peut-être qu'il y aura des bonhommes qui auront des vocations d'étalons, hein, pendant que les hormones printanières nous travaillent un petit peu tous. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on va finir avec un morceau qui s'appelle Cheval de Feu, hein, tant il est vrai que le feu parfois nous ronge à certaines périodes de l'année et vient nous titiller la libido. Eh bien, je vous propose de nous quitter avec ce morceau de Jeanne Chéral, Cheval de Feu, dont les paroles sont assez croquignolesques, assez coquines, et je vous laisse en profiter. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt puisque Osmos Radio arrête la saison le 12 juin et on vous retrouve en principe pour le festival Off 2021. En principe, là aussi, je croise les doigts pour le moment. Eh bien, j'espère bien vous retrouver une ou deux fois d'ici la fin de la saison. Pour le moment, pour aujourd'hui, je vous dis au revoir. Je vous laisse avec la voix sensuelle de Jeanne Chéral. Bisous, salut.
Viens par ici, cheval à fumant. Viens dans le giron de maman. Je t'attendais du des lèvres allongées sur ma peau de chèvre. Approche un peu, cheval indocile. Approche voir ce beau missile. Il fait si chaud dans mon varech que je pourrais te cuire le steak. Viens fouiller le buisson joli. Viens lustrer les galets. Je te gardais pour carême. Viens par ici, cheval fumant. Viens dans le giron de maman. À la lumière de mon tison, tu as des airs de grand bison. Approche un peu, cheval puissant. Prends le chemin le plus glissant. Je serai ton enfant, ta sœur. Approche un peu, cheval insensible, perlé de sueur, comestible, muscles tendus jusqu'au garrot, force abandonnée au barreau. Ton murmure est comme une prière pour que dure nos chair pour que toujours, si je le veux, tu restes mon cheval.